Chapitre 13. C'est le propre des destinées hors série d'inspirer les plus violentes contradictions, et singulièrement lorsqu'il s'agit d'un curé d'Ars qui a tourné vers les hommes pendant si longtemps un visage éclairé par le brasier de Dieu. Nous ne savons pas, dit un témoin de sa vie, si un homme a joui dans notre siècle d'une renommée aussi universelle que M. Vianney. Par une sorte de retour de flamme, nous ne savons pas si un autre homme a reçu autant d'injures que lui dans sa vie, autant d'outrages et d'humiliations. Bien sûr, l'amour qu'il inspire l'emporte de beaucoup sur les haines, mais la modestie du curé d'Ars, précisément, souffre des excès de la vénération et de l'admiration des pèlerins. Le grand cœur de la foule reste naïf, et la ferveur populaire est tyrannique et bruyante comme une tendresse d'enfant, colorée comme une image d'épinal. Voilà le saint, voilà le père, le bon père. Voilà notre saint curé, crie-t-on sur le passage de M. Vianney, chaque jour, ou plus exactement chaque fois qu'il se montre. Il n'a jamais l'air d'entendre, et sa démarche sous la louange se fait à la fois maladroite et pressée, comme celle d'un homme qui passerait entre deux rangs de tortionnaires. Tous les pèlerins d'Ars le contemplent, sinon avec les yeux de la foi, beaucoup n'ont pas ce bonheur, du moins avec le respect qu'inspire une incontestable supériorité morale. Et parfois on verra les intellectuels, les artistes, les grands de ce monde se livrer dans leur émotion aux mêmes excès que la foule. On entendra un savant distingué, mais peu croyant, affirmer en son enthousiasme après un bref entretien avec M. Vianney. Je ne pense pas que depuis l'étable de Bethléem, on ait rien vu de pareil. L'abbé Monin nous raconte qu'un poète fort connu veut un jour rencontrer le curé d'Ars et, ne pouvant rester maître de ses paroles, va jusqu'à dire en présence de M. Vianney « Jamais je n'ai contemplé Dieu de si près. » « C'est vrai, mon ami, répond paisiblement le prêtre en montrant le Saint-Sacrement exposé sur l'autel. C'est vrai, Dieu n'est pas loin. » Mais le poète ne l'entend pas de cette oreille. Il commence à prononcer de louange en louange un véritable panégyrique. Le pauvre monsieur Vianney, fort gêné, lui prend les mains et l'interrompt. « Mon ami, j'aime ces paroles de saint Jean. Si on nous connaissait, on dirait de nous beaucoup moins de bien et beaucoup plus de mal. » De toutes parts, l'admiration et la reconnaissance éperdues montent vers M. Vianney. La liste des hommes éminents, magistrats, militaires, littérateurs, religieux, prêtres, évêques, qui se sont rencontrés à Ars, est infinie, dit l'abbé Monin. Et lui qui aura personnellement la curiosité de parcourir les pages d'un registre d'hôtel, y verra figurer les noms les plus illustres de France, de Belgique et d'Angleterre, des notabilités de Londres, de Dublin, d'Édimbourg, de Bruxelles, de Cologne, de Munich, des voyageurs venus des rives du Mississippi, de l'Ohio et de la Plata. Un jour, le facteur apporte une lettre en provenance d'Italie et ne portant comme suscription que les mots « à Lyon, près d'Ars ». Or, le destinataire de la missive réside à Lyon et telle est la célébrité du village de M. Vianney que l'expéditeur italien de la lettre prend sans doute Lyon pour un faubourg d'Ars. De nombreux évêques, déjà, se sont agenouillés au confessionnal du Saint, et parmi eux, Mgr Dupanloup, auquel le bon curé a dit pour le rassurer à propos de sa charge pastorale « Il y a beaucoup d'évêques dans le martyrologe. Il n'y a presque point de curé. Jugez, Monseigneur, si vous avez lieu de trembler autant que moi. » Mais la plus célèbre visite qu'ait reçue le curé d'Ars est sans doute celle du père Lacordaire. Venant à Lyon en simple pèlerin, l'illustre dominicain arrive incognito dans une modeste voiture. Or, sous les plis de son manteau noir, quelqu'un aperçoit une robe blanche et très vite les pèlerins d'Ars apprennent qui est le visiteur. Remous profond. Le lendemain, on voit le père Lacordaire écouter dans un humble recueillement le sermon du curé. Les paroissiens de M. Vianney en sont très fiers. Et l'on entendra, après le prône, le père Lacordaire confier à ses amis « Ce saint prêtre et moi, nous ne parlons pas la même langue. Mais j'ai le bonheur de pouvoir me rendre ce témoignage que nous sentons de même, encore que nous ne disions pas de même. » Fort heureux et fort confus de l'honneur qui lui est fait, M. Vianney demande au prédicateur de bien vouloir parler dans sa chair. et n'ayant point essuyé de refus, il annonce que le soir aux vêpres, on dira bien mieux que lui. Mais il faut rendre cette justice au père Lacordaire que dans la chair d'Ars, il témoigne d'une humilité totale. Il est venu, déclare-t-il, non pour parler, mais pour écouter. Il est venu demander des conseils et s'édifier. Il est venu prier, se retremper à la source de la vie. Avez-vous vu, diront tout fiers les bonnes gens d'Ars, avez-vous entendu le grand prédicateur qui s'est mis si fort au-dessous de notre curé? Quoi qu'il en soit, le père Lacordaire, chaque fois qu'il oublie son académisme et qu'il se laisse aller à la fièvre brûlante de son inspiration, peut être un magicien, un enchanteur. Monsieur Vianney est dans l'enthousiasme. « Je n'ose plus paraître dans la chair, dit-il. Je suis comme celui qui, ayant rencontré le pape, le fit monter sur son cheval et qui depuis n'osait plus y remonter lui-même. Il est hors de doute que la visite du père Lacordaire ne rendra point, Dieu merci, monsieur Vianney, académique. Mais il semble hors de doute aussi que le dominicain a été fort impressionné par le curé d'Ars. Il avoue qu'il a trouvé dans le sermon de monsieur Vianney touchant le Saint-Esprit une réponse illuminatrice à une question qu'il se pose depuis des années. D'ailleurs, il ne quitte le Saint-Curé qu'avec déchirement et va même s'agenouillant devant lui. Jusqu'à lui demander sa bénédiction. Après quoi, M. Vianney le prie de le bénir à son tour. Et c'est bien une scène étrange et pathétique, éclairée d'un jour de Moyen-Âge, digne de saint François et de saint Dominique. « Savez-vous la réflexion qui m'a frappé pendant la visite du père Lacordaire ?» dira M. Vianney. « Eh bien, ce qu'il y a de plus grand dans la science est venu s'abaisser devant ce qu'il y a de plus petit dans l'ignorance. Les deux extrêmes se sont rapprochés. En même temps, nous l'avons dit, les humiliations pleuvent de tous côtés. Il faut vraiment un équilibre nerveux hors du commun pour résister pendant plus de 30 ans à ce régime de douche écossaise. Car on n'imagine pas les tracasseries, les critiques acerbes et les dénonciations auxquelles M. Vianney se trouvera en butte. Et d'abord de la part de ses confrères. Les reproches essentiels que les prêtres du diocèse font souvent à M. Vianney portent sur sa tenue extérieure et sur son ignorance. Tout le reste en dérive. On le prend pour un excentrique, ou même pour un démagogue qui cherche à se concilier les petites gens et la faveur populaire par une affectation d'excessive simplicité. Son apparence minable tranche sur celle de ses confrères, à une époque où les ecclésiastiques se font remarquer par la dignité de leur extérieur. On dit aussi qu'il est avare. Pourquoi ne se procure-t-il pas d'autres vêtements que sa soutane usée, ses souliers rapiécés, ce chapeau dont un mendiant ne voudrait pas? On attribue encore la misère de ses habits à l'hypocrisie, au désir d'attirer l'attention. Et bien souvent, la méchanceté se mêle à l'ironie, dans les plaisanteries faciles que les bons collègues lui décochent. Mais lui, imperturbable, garde envers ses détracteurs la même attitude sereine et prend le parti de rire, une attitude à la fois humble et gaie. « C'est bien bon pour le curé d'Ars, répète-t-il. Quand on a dit le curé d'Ars, on a tout dit. Il faut entendre le profond et souriant mépris envers soi-même qu'il apporte dans ses mots. On a tout dit. Un jour, tel prêtre du diocèse, voyant peut-être avec dépit que M. Vianney est assis près de l'évêque au cours d'un dîner, se permet de faire observer. Le curé d'Ars qui est auprès de Monseigneur n'a pas seulement une ceinture. Le curé d'Ars sans ceinture en vaut bien un autre avec sa ceinture, réplique un témoin de la scène. Voilà qui est très bien appliqué, conclut l'évêque. Quant à l'ignorance, elle est trop souvent jugée d'après d'absurdes critères d'érudition et même de pédanterie. Monsieur Vianney, sans doute, n'est pas un savant, mais il n'est pas un ignorant. Il connaît sur le bout du doigt sa vie des saints, tirant de cette science un parti extraordinaire dans ses sermons et dans son enseignement. Il repasse ses auteurs, s'assimile avec une patience admirable l'essentiel de la théologie. Davantage, son expérience des âmes est telle qu'elle finit par s'imposer à tous, et non seulement sous le rapport de l'éminence spirituelle, mais comme une véritable supériorité intellectuelle. Monsieur Vianney en remontrerait là-dessus à n'importe lequel de ses confrères, aux prédicateurs les plus illustres, aux plus vieux médecins et aux plus aigus des psychologues. Et cela aussi pourtant fait partie de l'intelligence, si l'on veut bien ne pas oublier qu'intelligere signifie comprendre. Monsieur Vianney est un peu responsable de sa réputation. Jamais il ne manque une occasion de se présenter comme ignare, incapable, sans mémoire, lent d'esprit, et parfaitement indigne d'exercer son ministère. De simples laïcs, des visiteurs de passage pourraient s'y tromper. Nous comprenons moins bien que les prêtres du diocèse de Belley aient pu se méprendre là-dessus. Car tout le monde peut entendre prêcher Monsieur Vianney lorsque, par exemple, il reparle des croix. La croix distille un baume d'amour. Une souffrance paisible n'est plus une souffrance. Nous nous plaignons de souffrir. Nous aurions bien plus de raisons de nous plaindre de ne pas souffrir, puisque rien ne nous rend plus semblables à notre Seigneur que de porter sa croix. N'importe qui peut entendre Monsieur Vianney, prêtre, parler de la présence eucharistique, qui est au centre même de sa spiritualité. N'oublions jamais, dit Monsieur l'abbé Naudet, qu'il était curé, donc chargé de la garde de l'Eucharistie. Il pensa tout naturellement que ce Verbe incarné se trouvait à l'église, dans son tabernacle. Il prit donc position au pied de notre Seigneur, dans l'Eucharistie, ce qui devait ramener son âme jusqu'à la Trinité Sainte, objet suprême de son désir profond. Et ces dispositions nous valent des aperçus admirables sur les liens du prêtre et de l'Eucharistie, dont les confrères de M. Vianney devaient être touchés jusqu'au fond du plus profond de leur cœur. Que c'est beau! Après la consécration, le bon Dieu est là comme dans le ciel. Si l'homme connaissait bien ce mystère, il mourrait d'amour. Dieu nous ménage à cause de nos faiblesses. On ne comprendra le bonheur qu'il y a à dire la messe que dans le ciel. À la vue d'un clocher, vous pouvez dire « Qu'est-ce qu'il y a là, le corps de notre Seigneur ?» Pourquoi y est-il ? Parce qu'un prêtre a passé là et qu'il a dit la messe. Mais ces élans, cette flamme extraordinaire, ne suffisent pas à désarmer les confrères de M. Vianney. Quelques-uns se voyaient avec méfiance enlever le gouvernement des âmes par un prêtre simple et peu habile, dont ils avaient tenu jusque-là les talents en assez médiocre estime. On entendra d'amères critiques et des sentiments d'humeur mal déguisés. On parlera du confrère d'Ars à tort et à travers, et l'on trouvera vite d'ailleurs un nouveau prétexte pour le blâmer. En effet, l'attrait d'Ars amène irrésistiblement dans le petit village, une lie d'âmes un peu troubles, dévorées de tentations et de scrupules, expansives et mythomanes, souffrantes et malfaisantes à la fois, dignes assurément de pitié, mais torsionnaires des malheureux confesseurs. Monsieur Vianney est en butte à cette redoutable faune plus que tout autre. L'abbé Monin fait une description clinique et saisissante de telles âmes. Elles cherchent à obtenir du confesseur une décision qui sanctionnent leurs idées de perfection, justifient leurs alarmes et leur permettent de continuer à trembler en liberté. Ars devient donc le creuset des imaginations tourmentées. Au retour de leur voyage, ces pénitents inquiets, et surtout les pénitentes, nous dit-on, parlent du Saint-Curé en altérant ce qu'il dit, en déformant tout ce qu'il fait. Et cela n'est point pour désarmer les critiques. Les autres prêtres vont alors jusqu'à défendre à leurs paroissiens, sous peine de refus d'absolution, d'aller se confesser à Ars. D'autres croient devoir sévir jusqu'en chair, et cela, le plus sincèrement du monde, contre les succès inquiétants de M. Vianney et les abus du pèlerinage naissant. Le curé d'Ars répond d'une manière qui est digne de lui. Un ignorant, il en est un. De même qu'il se dit hypocrite jusque dans mon lit, on croit que je suis mal couché et c'est le contraire. Mais parfois il est tout de même un peu las de ses remous amers. Et il dira un jour, non sans quelque mélancolique et douce ironie, « Dans ce temps-là, on laissait reposer l'évangile dans les chairs, et par là tout autour on prêchait sur le pauvre curé d'Ars. » Le sentiment de son indignité ne l'en imprègne que davantage. « Au moins, dit-il, je ne trompe pas tout le monde. Il y en a qui me mettent à ma place et m'apprécient à ma juste valeur. Combien je leur ai d'obligations, car ce sont eux qui m'aident à me connaître. » Et dans le même esprit, à ce confrère qui ose lui écrire un jour cette phrase, « Monsieur le curé, quand on a aussi peu de théologie que vous, on ne devrait jamais entrer dans un confessionnal. » Il trouvera le temps de répondre immédiatement. « Vous êtes le seul qui m'ayez bien connu. Puisque vous êtes si bon et si charitable que de daigner vous intéresser à ma personne, aidez-moi donc à obtenir la grâce que je demande depuis si longtemps. afin qu'étant remplacé dans un poste que je ne suis pas digne d'occuper à cause de mon ignorance, je puisse me retirer dans un petit coin pour y pleurer ma pauvre vie. Il est juste de dire, à la louange des prêtres de ce diocèse, qu'ils finissent par rendre justice à leur collègue Monsieur Vianney, et que certains de ces retours de confiance seront des plus émouvants. Quant aux évêques de Belley, ils ne se tromperont jamais sur l'éminence de sa qualité sacerdotale. C'est l'un d'eux, Monseigneur de Vie, qui dira un jour, pour défendre son cher curé d'Ars, « Je ne sais pas s'il est ignorant, mais je sais qu'il est éclairé. » On cite enfin ce trait remarquable de l'illustre cardinal de Bonald, venu deux fois consulter M. Vianney. Le prince de l'Église confère longtemps avec le curé dans sa propre chambre et dit à l'abbé Tocanier, en sortant d'un de ses entretiens confidentiels, « Savez-vous, monsieur l'abbé, que le curé d'Ars voit les questions de bien haut ?»« Dieu m'a fait, dit l'abbé Vianney à ses intimes, cette grande miséricorde de ne rien mettre en moi, sur quoi je puisse m'appuyer, ni talent, ni science, ni sagesse, ni force, ni vertu. Je ne découvre en moi quand je me considère que mes pauvres péchés. Encore le bon Dieu permet-il que je ne les voie pas tous et que je ne me connaisse pas tout entier. Cette vue me ferait tomber dans le désespoir. Je n'ai d'autre ressource contre cette tentation du désespoir que de me jeter aux pieds du tabernacle comme un petit chien aux pieds de son maître. En vérité, oui, Monsieur Vianney vit sous la pression d'un ennui et d'un dégoût de lui-même accablant, et d'autant plus qu'en avançant en âge, il se sent davantage écrasé par la charge de prêtre et par la charge de curé. Pour dire la messe, il faudrait être un séraphin. À un jeune homme, il fait cette confidence pathétique. « Ah, voyez, mon ami, je le porte à droite, il reste à droite, je le porte à gauche, il reste à gauche. » Si on savait ce que c'est que la messe, on mourrait, mon ami. La cause de tout ce malheur et du relâchement du prêtre, c'est qu'on ne fait pas attention à la messe. Hélas, mon Dieu, qu'un prêtre est à plaindre quand il fait cela comme une chose ordinaire. Il en est qui ont si bien commencé, qui ont si bien dit la messe pendant quelques mois et ensuite. Oh, quand on pense que notre grand Dieu a daigné confier cela à des misérables comme nous. Mon désir à moi serait de me retirer à Fourvière, n'étant chargé de personne, et après avoir bien prié, d'aller passer mon temps à l'hôpital. Oh, que je serais heureux! Il dit un autre jour, une fois qu'on est prêtre, on n'a plus qu'à pleurer sur sa pauvre misère. Et ceci qui est d'une profondeur à faire frémir, oh, que c'est malheureux un prêtre qui n'est pas intérieur. Puis, après avoir réfléchi, il en revient à sa marotte, à sa vocation, à l'appel qui le hantera toute sa vie. Mais pour cela, il faut la tranquillité, le silence, la retraite, mon ami, la retraite. Or, nous avons vu que son évêque, depuis 1835, ne lui permet plus l'asile, la source bienfaisante et l'ombre chère de la retraite. C'est dans la solitude que Dieu parle, ajoute M. Vianney, en poursuivant son idée. Je dis quelquefois à Monseigneur de Vie, si vous voulez convertir votre diocèse, il faut faire des saints de tous vos curés. Oh, que c'est effrayant d'être prêtre. La confession, les sacrements, quelle charge! Oh, si on savait ce que c'est que d'être prêtre, on s'enfuirait comme les saints dans les déserts pour ne pas l'être. Cette autre réflexion le peint tout entier quand on y pense bien. Le moyen d'être bon prêtre serait de vivre en séminariste. Chose étrange dans cette destinée, cet homme qui est d'un enjouement naturel, d'une gaieté naturelle, qui connaît des grâces rayonnantes et ne les laisse point passer, allant jusqu'à s'en imprégner de joie, cet homme-là est en effet assailli par le désespoir, sur lequel il nous faut tant revenir. Un témoin, qui est un de ses amis, le comte Prosper Desgarets, déposera après sa mort qu'il tient la tentation du désespoir pour la plus grave de celles qui aient jamais assiégé M. Vianney. Et le curé d'Ars, paysan malicieux, ami des hommes et des créatures de Dieu, permet à ses confidents, quelquefois, de mesurer toute la profondeur de cette eau noire où l'adversaire voudrait l'engloutir. « Je sèche d'ennui sur cette pauvre terre, dit-il. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Mes oreilles n'entendent que des choses pénibles et qui me navrent le cœur. Je n'ai pas le temps de prier le bon Dieu. Je ne peux plus y tenir. Dites-moi, serait-ce un grand péché que de désobéir à mon évêque en partant d'ici discrètement ?» « Monsieur le curé, lui répond un ami, si vous voulez perdre d'un seul coup tout le fruit de vos travaux, vous n'avez qu'à succomber à cette tentation. » Monsieur Vianney fera toujours ce qu'il pourra pour lutter. Il n'empêche qu'un jour, sortant de son confessionnal et brisé de corps et d'âme après une journée accablante, il s'arrête dans sa cour pour regarder d'un œil d'envie les poules qui ont gratté le sable, s'y sont fait un nid et dorment la tête sous l'aile. Je pense, dit Monsieur Vianney, que ces poules sont bien heureuses. Si elles avaient une âme, je voudrais bien être à leur place. Nous pouvons croire que son effrayant travail de pénitence est pour beaucoup dans ce désespoir qui revient périodiquement en lui. Mon Dieu, que le temps me dure avec les pécheurs, quand donc serais-je avec les saints? Et encore, s'il n'y avait pas là, par là, quelques belles âmes pour reposer le cœur et consoler les yeux de tant de mal qu'on voit et qu'on entend, on ne pourrait pas se souffrir dans cette vie. Enfin, ceci qui est dangereux pour les bonnes gens d'Ars, car on y trouve nettement exprimé le véritable attrait de M. Vianney. Ah, si j'avais su ce que c'était qu'un prêtre, au lieu d'aller au séminaire, je me serais bien vite sauvé à la trappe. M. Vianney, nous l'avons vu, a demandé très tôt son déplacement à Monseigneur de Vie, puis il s'est résigné à rester curé d'Ars. Par la suite, il a cherché sans cesse l'asile où se retirer. Il a remué dans sa pauvre tête d'exilé mille et un projets de retraite. La Providence elle-même est pour lui une occasion perpétuelle de rêver. Il voudrait un jour s'y ménager une chambre d'ermite pour y pleurer sa pauvre vie, comme il le répétera 100 fois. À diverses reprises, dans le cours de son existence, il livrera des confidences analogues. Il ne faut pas rester curé jusqu'à la fin de sa vie, dira-t-il. On doit se réserver quelque temps pour se préparer à la mort. Je ne voudrais pas mourir curé. Tout cela, cet amour de la solitude, tentation et vocation à la fois, tout cela explique les fuites bizarres qui seront commises par M. Vianney. En 1840, un premier départ du curé d'Ars passe à peu près inaperçu. Il sort de sa cure, par une nuit très sombre, et s'engage seul sur la route de Villefranche. Jamais il ne dira où il allait, ni ce qu'il pensait faire. Quoi qu'il en soit, il marche un certain temps, puis, arrivé à la Croix des Combes, non loin du village, se demande où est la volonté de Dieu, et il reprend le chemin d'Ars. Peut-être sa santé déclinante et ses fatigues en freinent-elles aussi pour une bonne part dans ce besoin de fuir qui le saisit. M. Vianney éprouve encore des névralgies fort pénibles. Jusqu'à sa mort, il sera tourmenté de maux de dents atroces et de terribles douleurs d'entrailles, sans parler d'une toux harcelante, obsédante. Quoi qu'il en soit, le soir du 3 mai 1843, la fièvre et la suffocation le terrassent à l'église même. On transporte le pauvre M. Vianney dans une chambre du presbytère et on le couche. Il s'est évanoui. Le curé d'Ars a alors 57 ans. Son médecin, le docteur Saunier, diagnostique une pleuropneumonie. Et l'on voit ses amis accourir au chevet du malade, notamment le comte Desgarets. 3 autres médecins sont appelés en consultation, et voici la faculté en pleine discussion. Soudain, on entend la faible voix de M. Vianney qui s'élève. « Je soutiens en ce moment un grand combat, dit-il. Et contre qui, monsieur le curé ? Contre 4 médecins. » S'il en vient un 5e, je suis mort. Mais bientôt l'état de M. Vianney empire. Il s'inquiète pour le salut de son âme et fait l'aveu qu'il voudrait bien vivre encore afin de pleurer ses péchés. La nuit, il a des cauchemars et on croit entendre les démons crier « Nous te tenons, nous te tenons !» Il endure son mal, d'ailleurs, avec la plus entière soumission. Mais pendant qu'il lutte contre la maladie, on dirait que dans Ars, il y a un mort dans chaque maison. Les paroissiens, les pèlerins, tout ce monde erre, ainsi qu'un troupeau d'âmes en peine. Et comme les nouvelles de la santé du curé d'Ars ne sont pas fameuses, la foule se met en oraison devant l'autel de Sainte Philomène, tout illuminé de cierges. Ce n'est qu'un concert de désespoir et de lamentation. Au chevet du mourant, on fait porter des corbeilles remplies de médailles et d'objets pieux que le pauvre M. Vianney trouve encore la force de bénir. Le 11 mai, il semble que le curé entre en agonie. Plusieurs prêtres sont dans sa chambre et le malade reçoit les derniers sacrements. Puis, racontera l'abbé Raymond, le saint se voue à Sainte Philomène, promet de faire célébrer 100 messes en son honneur et demande qu'on mette un grand cierge à brûler devant son image. Un peu plus tard, le docteur Saunier déclare en tâtant le pouls de M. Vianney « Il n'a plus que 30 ou 40 minutes à vivre. » Et le curé d'Ars pense, il le dira plus tard, avec horreur et tristesse, « Mon Dieu, il me faudra donc paraître devant vous les mains vides. » Le 12 mai, le maître d'école pertinent qui est à son chevet croit qu'il va rendre le dernier soupir, lorsque tout à coup, M. Vianney s'écrie « Je suis guéri. » Et dans les jours qui suivent, les forces lui reviennent avec une promptitude merveilleuse. « Miraculeuse », précise M. Vianney. Dès le samedi 20 mai, il pourra dire sa messe. Trois mois passent. Monsieur Vianney a repris avec le même zèle l'exercice écrasant de son ministère. Mais les médecins ne le trouvent pas en bon état. Lui-même est triste. Il ne pense qu'à la solitude qu'il cherche depuis l'âge de 11 ans. Et il dit un jour à son ami dans un sanglot « On me l'a toujours refusé ». Peu à peu, un projet précis se forme dans la tête affligée de Monsieur Vianney. D'abord, il veut partir d'Ars pour quelque temps. Son évêque l'y a autorisé et les médecins le lui conseillent. Puis, après plusieurs semaines d'absence, il deviendra peut-être possible, croit-il naïvement, d'aller se cacher dans quelques trous et de ne plus jamais revenir. Il confie son projet à l'abbé Raymond, curé de Savigneux, lequel aspire ni plus ni moins à devenir curé d'Ars. Monsieur Vianney fait même davantage, écrivant une lettre à Monseigneur pour le supplier de lui accorder un autre poste, le service d'une simple chapelle. Ayant ainsi pris ses dispositions, le curé d'Ars s'enfuit dans la nuit du 11 au 12 septembre 1843. Par suite de quelque indiscrétion, il ne s'est pourtant confié qu'aux gens de la Providence, toute la paroisse est là, guettant son cher curé. On le surprend, un peu après 1 heure du matin, qui se faufile à travers la haie du jardin, son bréviaire sous le bras et un petit paquet à la main. Mais il ne se laisse pas arrêter, refuse de bénir les objets qu'on lui tend et d'un pas rapide disparaît dans la nuit. Rejoint par l'instituteur Jean Pertinent, il s'éloigne avec lui en direction de Dardilly. Et quand ils arrivent à la maison natale du curé d'Ars, Monsieur Vianney est tellement fatigué qu'il doit s'étendre sur un lit. Les choses, hélas, ne sont pas aussi simples qu'elles le paraissent au pauvre fuyard. Dès le lendemain matin, on ne voit plus dans Ars que des visages consternés. L'abbé Raymond, qui rêvait de diriger le pèlerinage, comprend vite que l'affluence est orientée tout entière vers le saint. Quant à la Providence, selon Madame Desgarais, elle retentit de soupirs et de sanglots. Et déjà la moitié, au moins, s'est dispersée avec désolation. Quelques jours plus tard, on assiste à un événement extraordinaire. Les pèlerins d'Ars, puisque M. Vianney n'y est plus, arrivent, les uns après les autres, à Dardilly. Que faire ? En soupirant, M. Vianney s'installe dans un confessionnal de son église natale et il reprend, résigné, sa besogne de pénitence. Petite annotation. Ces fuites de M. Vianney ont profondément impressionné ses paroissiens et les pèlerins d'Ars, à telle enseigne que dans Ars et son pasteur, une simple notice de Michel Givre, déjà citée, que nous avons consultée aux archives d'Ars et qui date de 1857, l'auteur consacre une place importante à cette question sous la rubrique « Tentative de départ ». Et le mardi 19 septembre, après s'être rendu au sanctuaire de Notre-Dame de Beaumont, dont Monseigneur lui offre la chapellenie, M. Vianney dit tout à coup à son compagnon, l'abbé Raymond, « Le bon Dieu ne me veut pas ici. Où voulez-vous donc aller ?» « Retournons à Ars, » dit M. Vianney. Ce retour, il ne l'oubliera pas. Épuisé, appuyé sur un bâton, il monte vers la place où ses ouailles l'attendent, au son des cloches lancées à toute volée. L'émotion l'étreint et il semble heureux. Il fait plusieurs fois le tour de la place, soutenu par M. Raymond, et d'une voix brisée, il promet à tous ces gens qui s'agenouillent sur son passage et le regardent éperdument, « Je ne vous quitterai plus ».